il est juste de prendre les armes. Je vous propose ce matin d'aborder la question d'un point de vue philosophique avec Thomas Berns, qui est professeur de philosophie à l'ULB, auteur de La guerre des philosophes paru aux presses universitaires de France. Bonjour Thomas Berns.
Bonjour.
Ici en Ukraine, on trouve évidemment que la guerre menée par les troupes russes est injuste. Vladimir Poutine, lui, estime qu'il est dans son bon droit. Ça voudrait dire qu'en somme, il y a des guerres justes et d'autres pas, mais est-ce qu'il y a vraiment des guerres justes?
Alors c'est une question évidemment difficile et je ne vais pas me prononcer sur la guerre présente. Je voudrais simplement rappeler, sans exclure évidemment la possibilité d'évaluer moralement une guerre, hein, sans repousser l'idée qu'il doit être possible d'analyser les conflits, considérer qu'ils sont plus ou moins justes. Au-delà de ça, je voudrais donc mettre en avant le fait que la théorie de la guerre juste n'est qu'une théorie parmi d'autres qui nous permet de penser la guerre, et n'est qu'une manière parmi d'autres qui nous permet de définir la guerre. Alors je peux rappeler comment elle se construit et à quoi elle s'oppose. À la période médiévale, chez des auteurs comme Saint Augustin d'abord, mais surtout bien plus tard chez Saint Thomas d'Aquin et d'autres, on va se demander dans quelle mesure il est possible de légitimer la violence. Et c'est ça qui va donner lieu à une théorie relativement bien construite et relativement stable, qui est encore employée de nos jours, qui nous permet de dire si une guerre est juste ou pas, en fonction de si elle est causée par l'injustice de l'adversaire, ça c'est une chose, et en fonction aussi de si elle est bien intentionnée. Hein, et on voit évidemment dans le cas présent les belligérants des deux parties se revendiquer de ce type de raisonnement pour considérer leurs propres actions militaires. Ce que je veux simplement rappeler, c'est un, que c'est évidemment une théorie qui permet de justifier la guerre. Hein. Dire guerre juste, ça veut dire penser la guerre en ce qu'elle est juste, mais ça veut dire se donner les moyens de faire la guerre. Ça, c'est une chose. Et deuxio, que c'est une manière aussi. Que ce n'est qu'une manière de penser la guerre, qu'une manière de la définir, qui part du principe que la guerre est une relation fondamentalement asymétrique, que c'est une relation inégale entre un acteur qui a raison et l'autre qui a tort, hein, puisque c'est ça la guerre. Alors, dans un scénario comme celui-ci, on voit évidemment que l'escalade est évidente. À partir du moment où l'un a raison d'être en guerre contre l'autre, cela ne peut donner lieu qu'à un surcroît de guerre. C'est pour ça que je dis que c'est une théorie qui justifie la guerre. Alors, une autre théorie a émergé, avec les temps modernes évidemment, qui va envisager au contraire la guerre sur la base d'une neutralité axiologique, sans l'évaluer moralement, en partant du principe que dans une guerre, tout le monde prétend avoir raison, et donc en considérant que la guerre est cette fois-ci non pas une relation inégalitaire, mais une relation d'égalité entre des acteurs souverains. C'est le propre des États de faire la guerre, d'une certaine manière. C'est une théorie qui légitime la guerre, mais qui se donne la possibilité de la limiter, de refuser l'escalade. Alors ces deux théories, je le répète, sont incomplètes, insatisfaisantes, je les trouve très limitées, mais surtout, elles sont incompatibles l'une avec l'autre.
Cette guerre, aujourd'hui, elle a été précédée de tentatives diplomatiques, de tentatives de négociations. Nous, on voit ça évidemment comme un échec, mais pour Vladimir Poutine, c'est une politique, la guerre. Et c'est une question aussi qui a traversé la philosophie. La guerre, est-ce que c'est l'échec de la politique ou bien est-ce que c'est son prolongement? Comment est-ce qu'on y a répondu?
Alors, il existe effectivement une sorte de définition extrêmement classique de la guerre par qui est le fruit d'un militaire qui était un grand philosophe à côté de ça, à savoir Clause Fitz, au milieu du 19e siècle, qui a défini la guerre comme étant la poursuite du politique par d'autres moyens. C'est extrêmement répété comme définition, et ça signifie plusieurs choses. Ça signifie, avant tout, dans l'esprit de Clause Fitz, que la guerre est soumise au politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où la politique pourrait s'essouffler et devoir donner lieu à ces rapports de force qui permettent de contraindre autrui. Hein, donc avec d'autres moyens que ceux de la politique, c'est-à-dire avec les moyens de la violence. Hein, mais pour Clause Fitz, dire cela signifie tout simplement considérer que la guerre doit aussi rester profondément canalisée par le politique, c'est-à-dire ne doit pas s'émanciper de celui-ci, tout en reconnaissant, et les pages de Clause Fitz sont très lucides sur la question, tout en reconnaissant qu'il y a une tendance intrinsèque de la guerre à vouloir s'autonomiser par rapport à la politique, hein, à vouloir devenir en quelque sorte sa propre fin. Mais c'est contraire, on va dire, à cette définition de Clausewitz. Alors ça, c'est une première manière, effectivement, de lire la guerre, qui permet d'analyser des événements comme ceux d'aujourd'hui. Il y a eu immédiatement face à ça des regards en quelque sorte plus bellicistes sur la guerre, qui ont été très courants dans l'entre-deux-guerres, par exemple, hein, dans les milieux nazis d'une part, mais aussi dans d'autres camps, qui consistaient à vouloir inverser cette définition de Clausewitz en disant non, ce n'est pas la guerre qui est la poursuite de la politique par d'autres moyens, mais c'est exactement le contraire, c'est-à-dire il faut autonomiser la guerre, c'est la politique qui n'est jamais que la conséquence de la guerre, c'est-à-dire toute politique est l'expression d'un rapport de force, et surtout, toute politique doit s'organiser autour de la question de la guerre, c'est-à-dire toute la société, toute l'économie, toute la culture, toute la recherche doit être focalisée sur la question de la guerre.
Alors quand on entend ces théories, ces manières de penser la guerre, on se dit que c'est quand même un tout petit peu compliqué de les adapter au réel qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dont on est le témoin. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Thomas Berns, c'est particulièrement intéressant, hein, puisque vous avez écrit un livre dédié à la guerre chez les philosophes, et vous commencez en fait par nous dire les philosophes ont du mal avec la guerre, ils ont du mal à la penser, et en soi, c'est intéressant. Comment vous expliquez ça?
Oui, effectivement, mon hypothèse est de dire qu'il y a une certaine faiblesse des philosophes, de la philosophie en général, et on pourrait généraliser peut-être de l'humanité aussi, à penser la guerre. En quelque sorte, on n'est pas à la hauteur de cette question douloureuse. Et dans le cas de la philosophie, et peut-être dans le cas en général de la politique, pour un motif qu'on peut lui aussi immédiatement analyser, à savoir le fait qu'on s'est, pour le dire de la manière la plus simple, concentré sur la question de l'ordre dans la communauté politique. On a fait de la philosophie politique, si vous voulez, et on n'a pas fait de la philosophie cosmopolitique ou de la philosophie des relations internationales. Alors non seulement on a fait une chose et pas l'autre, mais d'une certaine manière, on a considéré que hors de la cité, hors de la communauté politique, ce qui règne, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est une absence totale d'ordre, parce que précisément, faire du dehors, et le dehors, c'est la guerre d'aujourd'hui, c'est aussi la Méditerranée dans laquelle des gens meurent sans même qu'on se souvienne de leur nom. Hein, c'est ça le dehors de la cité. Faire du dehors une absence d'ordre, c'est justement se donner la possibilité de penser l'ordre du dedans, en quelque sorte. Au moins vous pensez l'ordre dehors, au plus vous dites c'est un chaos, au plus vous avez la possibilité de réclamer des règles, mais aussi une pensée, je dirais, pour l'intérieur de la cité. Voilà, on a fait de la philopolitique et on n'a pas fait de la philo-cosmopolitique ou de la philo à l'ordre du monde. Ça, c'est mon hypothèse générale. C'est-à-dire qu'on a laissé quelque part la guerre parfaitement impensée. On fait de la guerre un chaos, c'est-à-dire on pense que la guerre n'a pas de règles, qu'elle n'a pas de normes, qu'elle n'a pas de rythmes qui lui sont propres, qu'elle est en quelque sorte désorganisation absolue. C'est évidemment faux. La guerre est quelque chose d'extrêmement organisé. La guerre est quelque chose de très normé. Mais comment veut-on penser une pensée, et imaginer une pensée du dépassement de la guerre, hein, une pensée de la paix, pour le dire très vite, si on ne peut pas la bâtir sur les normes mêmes de la guerre, sur ce qui gère la guerre elle-même. Et c'est là l'étrangeté que j'ai voulu dénoncer, en quelque sorte, c'est dire la philosophie n'est pas à la hauteur de cette question-là et donc ne peut pas bâtir non plus une pensée cosmopolitique, une pensée de la paix. Alors, je peux peut-être, si j'ai deux secondes, citer des gestes comme ça qui témoignent de cette, non pas de cette indifférence, mais plutôt de cette rapidité qu'a le philosophe quand il pense la guerre.
Oui, donnez-moi un exemple.
Par exemple, et c'est un geste dont je souligne avant tout qu'il est très philosophique. Il est très philosophique, mais il est très pauvre sur la guerre. On a l'habitude, comme philosophe, de penser les choses depuis leurs possibilités. Il ne s'agit pas de penser seulement la chose dans sa réalité, mais de la penser aussi dans sa possibilité. On a tout un bagage philosophique pour dire ces choses-là. Alors, ça adapte parfaitement à la guerre. Mais cette adaptation est dangereuse en tant que telle. Ça signifie dire, il y a de la guerre si la guerre est possible. Hors de la cité, la guerre est possible, donc c'est toujours la guerre. Vous voyez, ça a tendance à généraliser l'idée que le chaos est une absence, la guerre est un chaos qui est une absence totale d'ordre, et donc à s'empêcher de penser la possibilité de l'émergence d'un ordre dans ce cadre-là, pour le simple fait qu'effectivement, le philosophe a cette capacité à dire qu'il y a guerre, quand la guerre est possible, ce qui n'est pas non plus tout à fait faux.
Cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle semble pas forcément être celle d'un peuple, mais surtout celle d'un homme, Vladimir Poutine, qui veut démontrer aussi une forme de puissance et de virilité. On l'a vu dans sa communication depuis des années, des images qu'il renvoie. Est-ce que vous feriez un lien, Thomas Berns, entre la guerre et la virilité?
Écoutez, je n'ai pas l'habitude, et je préfère ne pas la prendre, de renvoyer les choses que j'analyse à une quelconque nature. Hein ? C'est-à-dire, je ne voudrais pas laisser entendre qu'effectivement il y a une naturalité virile de la guerre ou une naturalité guerrière de l'homme, etc. Je préfère me dire tout simplement qu'on a construit la catégorie de la virilité en y comprenant l'enjeu guerrier. Et ceci ne fait que se vérifier, effectivement. Si je refuse de parler de nature à ces moments-là, parce que sinon on s'emprisonne dans les natures, hein, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si c'est gravé dans la nature des choses, il n'est pas possible d'en sortir, on ne peut que répéter ces choses. Alors, quitte à ce que ce soit une pirouette, j'aurais tendance à dire plutôt que de se questionner sur la nature de l'homme ou la nature du viril, ne devrait-on pas avant tout se questionner sur la nature des artefacts, c'est-à-dire sur la nature des bombes, sur la nature des projectiles. Et là, en reprenant des mots, par exemple, de l'historien Lewis Mumford ou d'un anthropologue français comme Roger Caillois, hein, je voudrais quand même souligner, ça me plaît de le faire, souligner l'extrême particularité de ce que c'est un projectile, de ce que c'est une bombe. C'est bombe qui explose pour l'instant. Une bombe, hein, en tant que telle, hein, voilà sa nature, en quelque sorte. Une bombe, c'est quelque chose qui condense véritablement l'intelligence, l'économie, la culture, du temps de recherche, etc., de toute une société. C'est ça une bombe. Ça la condense, sa forme la plus ramassée, hein, comme un condensé d'énergie, véritablement. Et ça a pour vocation première, c'est vraiment sa nature, d'exploser. C'est-à-dire aussi de devoir être remplacé. C'est un système merveilleux de ce point de vue-là. Hein, vous condensez l'énergie, vous condensez toute une société et vous la faites exploser. Et d'autre part, ça a pour vocation aussi de faire quoi ? De faire exploser une autre société, c'est-à-dire de devoir la reconstruire. On voit immédiatement que la nature du projectile, la nature de la bombe, va de pair, évidemment, induit sa production, sa reproduction, sa répétition sur le mode le plus mécanique et sur le mode le plus croissant. Questionnons-nous là-dessus.
Bon, on va continuer à se questionner.